Voix Nue. Cette semaine, Élodie Maillot rencontre Angélique Kidjo. Ce soir, Renaître.
Bonsoir Angélique Kidjo.
Bonsoir.
Hier, nous avons évoqué votre enfance et votre jeunesse à Cotonou, vos premiers pas sur scène, votre premier disque et les débuts de votre célébrité en Afrique, bien avant donc que vous ne soyez considérée comme l'une des 100 femmes les plus influentes du monde, par le Guardian notamment, bien avant cette reconnaissance et donc ce succès, en 1983, vous quittez votre pays sans faire de bruit, une nuit. Est-ce qu'il s'agit bien d'une fuite ?
C'était une fuite, parce que j'en pouvais plus. Et parce que la liberté pour moi n'a pas de prix et personne n'a le droit d'empêcher les autres d'être libres. Donc pour moi, la dictature pour moi c'est ça. C'est l'injustice d'un pouvoir en place qui se dit tout puissant et qui empêche les gens de vivre leur vie comme ils ont envie de vivre leur vie et de continuer à avoir une normalité. Et aujourd'hui, on parle beaucoup de dictature. J'ai entendu des gens dire, si les États-Unis devaient être une dictature, ils veulent que Trump soit le dictateur. C'est une réunion qui est passée sur CNN de Steve Bannon, où une dame s'est levée en disant, la dictature sous Trump, on le veut bien. J'ai dit, mais toi, tu comprends rien. Les Américains n'ont jamais su ce que c'était que la dictature, n'ont jamais vécu la dictature. Et cette tension est un peu partout. Donc moi, je suis partie de mon pays pour avoir la liberté d'expression, de faire la musique que j'avais envie de faire, comme Myriam Makeba l'a fait, comme Celia Cruz l'a fait, et comme Nina Simone l'a fait, et comme tant d'autres artistes ont fait.
Qu'est-ce qu'on peut mettre dans sa petite valise lorsqu'on sait qu'on part pour toujours ?
Au moment de faire la valise, votre tête est vide, en fait. Parce que vous savez que vous allez dans un inconnu abyssal. Même si je parle la langue française, j'ai jamais vécu en France. Donc, ma valise, je n'ai jamais, je pense pas que j'ai pensé la faire. Parce que maman me disait toujours, tu as pris ci, tu as pris ça. Je dis, mais maman, pourquoi faire? Je sais pas ce qui m'attend là-bas. Tu me dis de prendre ça, 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 je serai seule. Je n'ai pas la force de tirer deux valises. J'ai pris une petite valise cabossée. J'ai pris les derniers vêtements qu'elle m'avait fait, qui étaient suffisamment neufs. Et que la couture m'avait fait aussi en me disant que si l'été arrive, je serai prête. Et voilà, je suis arrivée à Roissy Charles de Gaulle. Je me rappellerai toujours, à chaque fois j'atterris là-bas et que je prends ce long couloir et les escalators avec l'ouverture sur l'extérieur pour aller vers les bagages, je me rappelle toujours ce moment où je suis arrivée, où je regardais tout partout, où il fallait monter sur ce tapis roulant là. J'ai regardé les gens faire et j'ai suivi. Je me suis lancée comme ça, ça a été mon premier acte de courage d'un truc que je ne connaissais pas. Je me suis dit, bon, mais à Rome il faut parler comme les Romains, bon, on y va quoi.
Dans Petit Pays, l'écrivain Gaël Faye écrit « L'exil, c'est quand on part et qu'on ne ferme pas la porte derrière soi. Comme si, lorsqu'on n'a pas le choix comme vous, on laisse un courant d'air, une porte qui oblige à revenir, soit physiquement, soit peut-être dans les songes, dans l'écriture
ou
dans la musique. »
On ne part jamais de chez soi complètement. Là où on a grandi, on ne part jamais de ça. Ça vit en vous. Je peux aller partout dans le monde, je serai toujours dans mon âme béninoise. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Ce qui est difficile, c'est d'arriver à se projeter dans cet exil-là en gardant son identité et son humanité. C'est les deux défis auxquels vous faites face parce que vous avez tellement d'hostilité en face de vous, tellement d'inconnus. Soit vous réinventez complètement, soit vous disparaissez.
Et quand vous êtes loin de Cotonou, Angélique Kidjo, quelle image vous gardez de Cotonou, la mer,
ah, les rues, les rues, les odeurs, le marché. Et la mer. Le rythme non-stop. Dès que le coq a fait cocorico le matin, les pas des gens qui commencent à marcher, qui balayent, les odeurs de feu, de bois ou de charbon pour faire la bouillie, pour cuisiner, ceux qui vendent la nourriture. C'est constant dans ma tête et dans mes narines.
Vous y pensez souvent ?
Ah oui, toujours.
Quand vous arrivez en France, donc Angélique Kidjo, en 83, vous vous sentez justement dans un entre-deux ? Vous savez que vous y allez pour de bon ?
Est-ce que J'ai eu une discussion assez intéressante avec mon frère qui m'a dit « Prépare-toi, tu vas pleurer. » Parce que ce qu'on connaît de la France et la réalité sur le terrain, c'est pas la même chose. Oublie, liberté, égalité, fraternité, ça n'existe pas. J'ai dit « Ah ouais ?» Ok. Ma première année en France, il n'y avait pas de jour où je ne me couchais pas en pleurant. Parce que quand je suis arrivée, je me suis inscrite pour aller à l'école de musique de la SACEM. Donc on a fait les auditions à l'auditorium de la SACEM. Et la chanson française que j'avais choisi de chanter, c'était Toulouse.
De Claude Nougaro.
Parce que j'étais toujours encore au Bénin. Ma tête, mon âme était toujours là. J'étais physiquement en France, mais j'étais à Vif. Donc mon pays était toujours, qu'il est loin, mon pays, qu'il est loin, c'était pas qu'une phrase que je chantais, c'était une réalité pour moi. Il faut savoir que j'arrive dans un pays qui n'a pas eu de dictature, donc la musique a toujours existé tous les jours différemment. Tous les genres de musique ont été joués ici. Donc quand j'arrive ici, j'étais comme une junkie de musique. Parce que je me suis rendu compte, c'est une réalité qui m'a frappée quand j'écoutais des chansons à cette école-là. Je me dis, mais je ne connais pas ça. Je ne connais pas si. Je ne connais pas. Igné, je ne connaissais pas. Nougaro, je connaissais Toulouse. Donc, je commence à découvrir Louis Chédid, Higelin, Serge Gainsbourg, plein de chansons de musique que je connaissais pas du tout, du tout, du tout, du tout. Les Talking Heads, ça m'était passé par-dessus la tête, mais c'est-à-dire qu'on a vécu plus de 10 ans dans une ignorance totale musicale de ce qui se passait dans le reste du monde. Et toutes les chansons, je les écoutais comme si j'étais droguée de musique. Et je les réécoutais en boucle. Vous imaginez l'impact que ça peut avoir sur quelqu'un qui adore chanter.
Quel regard, quand vous êtes arrivé à la fin des années 80, vous perceviez des Français sur l'Afrique en général?
Mais je n'en avais pas jusqu'à ce que j'arrive en France. Pour moi, la France est l'un des pays où les gens sont éduqués et qui comprennent bien l'Afrique. Parce que la relation entre la France et l'Afrique, c'est quand on est en Afrique, on le sait, parce qu'on voit des Français arriver tout le temps, les VSN qui viennent faire le service militaire, le centre culturel français, c'est là où je passais mon temps à aller faire mes devoirs, les livres que mes parents n'avaient pas, que je cherchais pour faire mes devoirs. C'est au centre culturel français que j'allais chercher mes livres pour faire mes devoirs.
Est-ce que vous étudiez des auteurs français?
Oh là là, moi j'ai étudié le Cid, Antigone de Sophocle, j'ai aimé beaucoup, Les Fleurs du Mal, Baudelaire bien sûr, et Camus. Alors, Camus, quand on a commencé à étudier Camus, on avait un super prof de français. Et on avait ceux qui étaient Rousseau et ceux qui étaient Camus. Oh là 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 là, les discussions. C'était absolument incroyable comment on arrivait à passer de la littérature française, parce qu'on faisait aussi de la littérature francophone africaine, Amadou Kourouma, Kamara Lai, Cheikh Anta Diop, Cheikh Hamidou Kane, et On était tout le temps à cheval entre les deux. Donc, on était dans cette dualité, tradition et modernité, tout le temps. Donc, c'était carrément très compliqué pour moi, quoi. C'est la réalité de gens que je rencontrais, ce qu'ils me disaient par rapport à cette littérature très riche et très profonde et très humaniste, avec les réactions complètement primaires et ridicules des gens. C'est là où vraiment je me suis rendu compte que l'ignorance des Français par rapport à l'Afrique est incroyable. Des commentaires comme « Alors, maintenant tu prends le métro ici, tu prends la voiture, comment tu fais des courses chez toi, dos d'éléphant ?» Et je disais « Oui, avec un singe dans mes bras qui allait me prendre voler les oranges. » Mais je dis les gens « Mais c'est quoi cette histoire ?» Il y en avait un qui disait « Mais celle-là, quand elle parle français, il faut aller prendre l'encyclopédie pour la comprendre. Mais c'est quoi ce français-là ?» Je lui répondais « Mais c'est ta langue. Si tu ne veux pas la parler, ce n'est pas mon problème. » Des petites choses de méchanceté, des trucs. Mais tu me dis mais ces gens-là, ils sortent d'où? Ils sortent de quel siècle pour poser des questions aussi ignares? Donc la première année a été une année, mais très douloureuse pour moi, parce que je me dis, mais c'est où la liberté, c'est où la fraternité? Et après la première année, je me suis dit, je ne vais pas arrêter, parce que mon frère m'a dit, oh, tu arrêteras de sourire, ici tu vas perdre ton sourire. Je dis, moi, je ne perdrai pas mon sourire. Et je ne l'ai jamais perdu. Je ne sais pas les autres qui vont me dire, parce que je souris, ouais, vous souriez tout le temps comme des idiots. J'ai dit, ben oui, moi je préfère sourire, toi tu regardes, tu ressembles à une grenouille constipée. C'est sans arrêt. Et jusqu'aujourd'hui, il y a encore des gens qui... Des choses qui se passent, je me dis, je vais me pincer, je suis en France. Je rentre dans un magasin, je me dis, mais madame, vous savez, c'est trop cher et trop chic pour vous. Hein. Vous ne pouvez pas acheter ici. Je dis, ah bon, je ne veux pas. Ah, mais disons, je veux rentrer dedans.
C'est des réflexions que vous avez entendues, ça, Angélique?
Moi, je suis rentrée dans le magasin, j'ai pris plein de vêtements. J'ai essayé tout. Habituellement, quand j'essaye un vêtement, je le remets sur le porte-manteau. J'ai laissé tout en plan. J'ai dit à la dame, vous savez quoi, c'est pas assez cher, c'est pas assez chic pour moi. Allez faire le boulot pour lequel vous êtes payé. Et je suis partie. Et c'est des trucs comme ça. C'est la France. Mais quand on est dans le pays, on se rend pas compte. On se rend pas compte quand on est français qu'il y a des gens qui sont fondamentalement racistes. Et en même temps, à la même période, je rencontrais des gens absolument fantastiques. Où intellectuellement, je passais un temps fou à parler avec eux. On refaisait le monde, on faisait plein de trucs, et intellectuellement intéressant pour moi. Donc pour moi, c'était difficile de réconcilier ces deux France. Jusqu'au jour où je me dis, dans un pays, tout le monde ne va pas être pareil. Chez toi, tout le monde n'est pas pareil. J'ai commencé à prendre du recul par rapport à la maison de mes parents où j'ai grandi, et la maison de mes amis où j'allais, où la liberté d'expression n'existait pas. Donc j'ai commencé à appliquer ce concept de parler, d'aller vers les gens avec lesquels on pouvait avoir des discussions constructives, que de parler à des gens qui n'avaient rien d'autre à me dire que des clichés sur l'Afrique. Moi, c'est les cerveaux brillants, c'est un bonheur, quoi. C'est tellement bon de parler avec des gens intelligents.
Quand vous arrivez en France, s'en suivent aussi des années de précarité, un peu de débrouille. Malgré le succès que vous aviez au Bénin, vous recommencez tout à zéro. Vous devenez choriste, vous passez du devant de la scène au derrière.
Pour moi, c'était très intéressant de le faire. Et je m'étais préparée à ça parce que c'est une discussion que j'avais eue avec mes parents avant de partir. Je savais que mes parents avaient des préoccupations. La drogue, la prostitution, due à la précarité. Avant de partir, j'avais dit, ça, ce ne sera jamais mon choix de vie. Jamais. Je préfère encore faire des ménages partout, travailler 20 heures par jour et revenir au Bénin, aller en prison s'il le faut, mais jamais ça. Et je n'ai jamais pensé à aucun moment que les gens devaient me rouler le tapis rouge en France. Au contraire, quand je suis partie, je me suis dit à un moment donné, tu vas devoir payer un loyer, faire un budget, ce que tu ne faisais pas parce que tu n'avais pas de loyer à payer. Ce que tu gagnais en faisant tes concerts, tu les dépensais comme tu voulais. En France, personne n'est là pour toi. Maintenant, tu dois te prouver à toi que tu es capable de vivre toute seule et de prendre ta vie en main. Ce qui était important pour moi, c'était de toujours être sur scène. La scène a toujours été au centre de ma vie. Donc faire les chœurs pour moi, c'était important. Pourquoi? Parce que je veux faire les chœurs pour savoir par quoi passent les choristes quand on a un leader devant.
Donc vous saviez que vous alliez rester leader?
Moi, je savais que j'allais avoir une carrière à un moment donné. J'allais faire les chœurs, c'était une expérience pour moi. Et ça a été une expérience très importante. Parce que ça vous apprend à projeter la voix autrement. Parce que quand on chante en chœur, il faut, pour qu'un chœur fonctionne, il faut que les voix déjà au départ soient en harmonie. À partir du moment où j'ai compris ça, quand j'écrivais mes chœurs, moi, sur mes disques, je les faisais de telle sorte que les chœurs soient une partie de la chanson. Voilà. C'est ça qui m'a servi. Et après, avec ce groupe-là, dans le club qui s'appelait le Phil One à la Défense, le programmateur a reçu un coup de fil un jour d'un pianiste de jazz hollandais qui voulait une chanteuse africaine qui avait une connaissance de la chanson traditionnelle africaine, mais dans le jazz aussi. Donc en 84, j'ai commencé à tourner une fois par an, tout le mois de janvier. Et c'est ça qui me permettait de mettre de l'argent de côté pour payer ma scolarité, de payer une partie de mes loyers et les petits jobs de coiffeuse que je faisais, de ménage dans les chambres d'hôtel, de babysitter, qui m'ont permis. Jamais, à aucun moment, je n'ai compté sur mes parents parce que je savais que les moyens, ils ne les avaient pas financiers pour m'aider. C'est vrai qu'il y a des moments, le budget était très, très serré. Je n'avais pas à manger. Ça ne me dérangeait pas. Moi, ma nourriture, c'était la musique. C'est ça qui est dingue. La musique m'a porté à bout de bras pendant tout ce processus-là.
Et vous avez rencontré aussi l'amour à Paris?
J'ai rencontré Jean, mon mari, à l'école de jazz, en fait. Et ce qui fondamentalement m'a fait tomber amoureuse de mon mari, c'est qu'il n'avait aucune connaissance de l'Afrique. Rien il connaissait de l'Afrique en dehors de Tintin au Congo. Rien, zéro. Et du coup, je n'ai pas dans cette logique de recherche de l'exotisme. C'était pas ça du tout, son truc. Mais je savais que si je rencontrais jamais un mec ici qui me parle d'exotisme par rapport à l'Afrique, il ne va pas faire l'enfer avec moi. Je ne sortirai jamais avec. Je préfère être seule que d'épouser un mec qui pense que je suis un bracelet ou je ne sais pas. C'est pas un objet, moi. Et on s'est rencontrés en 85 pour la fête de la musique. Et on a fait le concert. Et puis après, on s'est perdu de vue en 87. On a recommencé à travailler ensemble dans les clubs. Les vides clubs, bonjour les dégâts. On pense que faire les tresses dans une salle de coiffure, c'est compliqué. Mais va faire le club, tu vas voir. Tu commences à 21h et tu joues jusqu'à 5h du matin. Et t'es encore plus mal payé que de quand tu fais les coiffures. Les gens fument, les gens parlent pendant qu'on chante. C'est là où le métier rentre. Quand on n'a pas fait les petits clubs, les galettes de musiciens, et comme on dirait sur la grande scène, on n'a rien appris. On se casse la figure forcément. Et c'est pendant ces concerts de club où lui a emprunté la voiture de ses parents pour qu'on aille jouer dans un club à Honfleur et qu'on devait revenir de la soirée et tout le monde était bourré sauf lui et moi et que je devais le tenir éveillé en le pinçant, me pinçant moi-même pour pas qu'on ait un accident. C'est là où l'amour naît parce qu'on rigolait des mêmes choses en fait.
C'est quand même votre moitié, vraiment au sens propre du terme, dans la vie professionnelle et
absolument,
dans la vie personnelle.
Absolument, ça c'est clair. Et c'est vraiment mon pote et mon partenaire. On écrit la musique ensemble. Un jour, il a sacrifié, il a dit la scène, ça m'aide. Je ne veux plus la scène, je veux être Mr. Mom. C'est-à-dire, je veux être papa qui voulait rester à la maison et élever sa fille. Donc, je lui dis, mais tu es sûr que tu ne vas pas regretter ça? Et il me dit, mais non. Tant que je suis en studio, qu'on écrit de la musique ensemble, ça me suffit tout à fait. De temps en temps, il touche encore de la basse. Il joue très bien, mais il ne veut pas, il ne veut plus.
Il a longtemps été votre bassiste sur scène.
Pendant 10 ans. Dans les 10 premières années de notre mariage, on était ensemble 24 heures sur 24. Il était le mari, le chef d'orchestre, le papa. C'est beaucoup, hein. Mais il a géré.
Est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes senti chez vous en France? At home, comme on dit en anglais.
Ah oui, au bout d'un moment, quand on commence à rencontrer des gens intéressants, on fait la part des choses. On rencontrera toujours des idiots. Dans tous les pays, il y en a. Donc une fois qu'on a compris ça, on rencontre un raciste, il raconte sa blague débile. Tu rigoles pas, c'est tout. Et on me dit, t'as pas d'humour. Je dis, je vais te raconter une blague débile par rapport à toi, tu vas être content. Donc t'as réglé les problèmes, quoi. Moi, j'ai pas de problème par rapport à ça.
Mais qu'est-ce que ça veut dire pour vous, se sentir chez soi, quand on est quelqu'un comme vous, Angélique Kidjo, qui a quitté son pays et qui voyage énormément?
Me sentir chez moi, c'est de me sentir entourée d'amour, de personnes qui me respectent et qui m'aiment. C'est se sentir chez soi, ça. C'est pas matériel du tout, c'est un truc où tu te sens en sécurité par rapport à l'amour qui t'est donné, à ton environnement. C'est ça, se sentir chez soi. Et je crois qu'on le porte en soi, on l'amène partout.
Donc c'est la musique qui la vous musique, a apporté cet amour.
La musique m'a apporté énormément de famille. Énormément. J'ai des amis partout. La première fois que j'ai été en Australie, ça a été le moment où je me suis dit, la musique est vraiment magique. J'arrive sur un continent loin de chez moi. Je n'étais même pas au courant de ce qui se passait après l'album Logozo, que c'était un méga tube en Australie. J'arrive à l'aéroport, des milliers de gens avec des pancartes « Welcome Angélique ». Je dis « Mais c'est quoi ce truc-là » On était partis pour faire 2 concerts à Sydney, on en a fait 4. Et de cette période-là, depuis 92, j'ai des amis que je vois encore, certains sont décédés, d'autres sont encore là, que je vois avec beaucoup de plaisir. On s'écrit pour nos anniversaires. La musique m'a amené à me rendre compte que les familles n'ont pas franchement de frontières, en fait.
Et vous avez aussi amené l'Afrique dans d'autres musiques. C'est aussi ça qui a plu, c'est ça peut-être qui vous a permis d'être si bien en France.
Il y a un journaliste suisse qui m'a dit un jour, nous, en Europe, on ne se rend pas compte de la richesse que vous nous apportez. Parce que quand vous venez ici, vous venez avec toute votre culture, la richesse de votre culture. Et nous, on le prend pour acquis. Moi, jamais j'aurais pensé à ça. Moi, mon continent, il est en moi. Mon pays, il est dans mon ADN. Donc, à chaque fois que je suis amenée à faire quelque chose, je puise toujours mon inspiration dans ce pays-là, dans ses rythmes, dans sa philosophie, dans ses traditions, toujours. Il y a 2 événements dans ma vie d'enfant et d'adolescente qui ont bouleversé complètement ma perception du monde. À 9 ans, j'ai appris l'existence de l'esclavage sans comprendre vraiment la magnitude de ça. Parce que quand on grandit dans une famille qui vous dit un être humain n'est pas une question de couleur, qu'il n'y a qu'une famille humaine, et que si on veut le respect pour soi, on doit respecter l'autre. Comment est-ce qu'on fait cohabiter ça avec l'esclavage? Moi, je n'ai pas compris. À 15 ans, je vois Winnie Mandela à la télé au Nigeria qui parle de Nelson Mandela et de l'apartheid en Afrique du Sud. J'ai vécu 15 ans dans un pays, sur le même continent que les Sud-Africains, sans savoir ce qui se passait en Afrique du Sud. Et c'est là où je me suis rendu compte pourquoi mon père écoutait RFI tous les matins. C'était le seul moyen d'avoir des nouvelles de l'Est, du reste de l'Afrique. Et j'ai commencé à me poser des questions. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas avoir nos médias nous-mêmes et avoir des journalistes un peu partout pour parler de notre continent? On doit passer par le pays colonisateur. Ma conscience politique a commencé à s'éveiller. Ma réaction à l'apparition de Winnie Mandela a été une réaction violente dans l'écriture. J'ai commencé à écrire des petites chansons, j'avais 11 ans. À 15 ans, pour la première fois de ma vie, j'ai manqué de respect à mes parents, je les ai traités de menteurs parce que jusque-là, je me disais, je pouvais aller n'importe où et je serais en sécurité. Et là, je mets l'esclavage à côté de l'apartheid, je me dis, mais non, ma couleur est un danger pour moi. Et j'ai écrit cette chanson qui s'appelle Azanakwe, qui est sur l'album Aïe. Et ma première mouture, c'était d'une violence, mais rare. Je l'ai chantée à mon père et à ma famille. Et mon père m'a regardé. Il m'a dit, je ne vous ai jamais appris la violence dans cette maison, ni la haine. Je comprends tout à fait les sentiments que tu veux exprimer. Je comprends ta colère, ton sentiment d'injustice, tout ce que tu veux. Mais soumets-toi, tu n'écriras jamais une chanson pour pousser à la mort de qui que ce soit ou pour prôner la violence. Si tu ne peux pas trouver en toi suffisamment de lumière, de courage pour réécrire une chanson, basée sur cette colère, mais dans la positivité, tu ne chanteras plus jamais ici. Donc je suis retournée dans ma chambre, j'ai réécrit la chanson. Ça m'a pris des jours. Et ça a été la chanson Azanakwe où j'ai dit que je rêve de vivre dans un monde où il n'y aura plus d'oppresseurs ni d'opprimés.
Est-ce que vous diriez que vous faites une musique sacrée? Ou est-ce qu'en tout cas... C'est une...
Toutes les musiques sont sacrées à partir du moment où ça touche les gens. C'est ce que je dis toujours par rapport à l'inspiration. On ne sait pas ce qui est dormant en nous. Quand l'inspiration arrive, on ne se pose pas la question de savoir si ce truc-là est africain ou pas. Il est là ou il n'est pas là? Donc, qu'on écoute toutes les musiques au jour d'aujourd'hui. Ma trilogie m'a permis de comprendre comment les musiques de ce continent ont infiltré toutes les musiques. C'est par la force, par la douleur de l'esclavage. On a beau prendre les tambours des esclaves qui étaient aux États-Unis, on n'a pas pris leur voix. Et sans le blues, est-ce qu'on aurait le rock'n'roll? Non. Est-ce qu'on aurait le R&B? Non. Est-ce qu'on aurait la soul music? Non. Est-ce qu'on aurait le rap? Rien, zéro. Donc à partir de cet instant-là, faire des catégorisations de la musique, c'est inutile. Ça ne sert à rien.
Vous avez mélangé la musique africaine à beaucoup d'autres musiques qui, a priori...
J'ai ramené toutes les autres musiques à l'Afrique, je dirais. Parce que si j'ai pu le faire, c'est parce qu'il y a, dans ces musiques-là, déjà l'Afrique était existante.
Y compris dans le boléro de Ravel que vous avez repris dans un morceau qui s'appelle Long Long. Qu'est-ce que Maurice Ravel, en 28, quand il avait écrit ce morceau, qu'est-ce qu'il avait perçu de l'Afrique? Qu'est-ce qu'il avait pris à l'Afrique?
Il n'est plus là pour nous le dire. Peut-être qu'il a écouté quelque chose, peut-être qu'il la regarde, je ne sais pas. Mais c'est pour ça que je dis l'Afrique est en nous, tous. Donc quand, la première fois que j'ai entendu cette chanson, je me suis fait huer par d'autres potes de l'école de musique où j'étais, qui me disaient « Toi, tu ramènes toujours tout à l'Afrique, tu nous fatigues, ce n'est pas africain. »
La première fois que vous avez entendu le boléro?
Ouais, c'était en cours de chant à ma première école, où je disais « Mais ça, c'est africain. » Et puis je me dis, mais le boléro d'Arva me dit « Ah non, mais attends, c'est la musique classique, c'est trop sophistiqué pour les Africains, là, c'est pas africain. Tu sors d'où, toi? Tout est africain chez toi. » Je dis « Mais vous êtes ignorant. Si vous connaissiez les musiques africaines un tout petit peu, vous n'allez pas me dire ça. » Mais je l'ai prouvé en le faisant ma version.
C'est la mélodie, c'est la rythmique?
C'est la répétition, c'est-à-dire cette transe qui est... C'est complètement africain. C'est les répétitions des tambours qui mettent les gens en transe. Ce n'est pas le voodoo, ce n'est pas rien de tout ça. C'est sous la chaleur, avec un rythme qui se répète tout le temps. Et quand on danse sous la chaleur, tu as des hallucinations directes. Il n'y a rien à faire. Tu n'as pas besoin de prendre du coco ou je ne sais pas quoi. Mais rien, tu as besoin de prendre. Rien, zéro. Et c'est ça qui était absolument incroyable quand Ravel l'a écrit. Quand ça jouait la première fois, les gens comprenaient rien. Ils disaient, mais c'est quoi ce truc? Et moi, je l'ai compris. Et quand j'ai écrit cette chanson, le thème qui est venu dans ma tête, c'est l'amour. Non, non, ça veut dire l'amour. Je dis, cette chanson, c'est par sa répétition, ça invite, ça s'arrête à chaque endroit du monde pour prendre la main de tout un chacun d'entre nous en disant, l'amour existe. C'est pour ça que j'écris ces paroles-là sur le boléro de Ravel.
Alors, vous voyez, vous entendez plutôt.
Je suis rentrée dans la transe de Ravel. Et pour moi, l'écrire au moment où il a écrit, la guerre est arrivée, peu de temps après. Et qu'est-ce qu'on a fait ?
Après qu'il ait écrit le boléro.
Oui, ouais, quand il a écrit le boléro, il est mort. Il n'a même pas su que ça a eu autant de succès, en fait. Donc, quand il a écrit, pour moi, quelque part, il y a cette répétition, cette transe qui veut attirer l'attention du monde sur le fait que si on laisse partir l'amour, on va dans les catastrophes. C'est un peu prémonitoire avant la Deuxième Guerre mondiale. Pour moi, c'est ce que j'ai ressenti quand je l'ai écouté.
C'est écrit 5 ans avant l'arrivée au pouvoir d'Hitler.
Voilà.
Est-ce que parfois vous avez besoin, Angélique Kidjo, de silence ?
Toujours. C'est pour ça que je ne vis pas dans les centres-villes. Je ne peux pas. Je voyage beaucoup et moi, ma nuit doit être calme.
Est-ce que dans ce silence-là, vous avez un rituel ou un objet ou quelque chose qui vous rattache à votre histoire ou à un monde invisible qui fait que vous vous sentez chez vous ?
Ma respiration. Je me mets sur ma respiration, mes battements de cœur. Et je me pose là-dessus. C'est pour ça que je fais de la méditation. C'est important.
Vous méditez ?
Je médite depuis bientôt 5 ans. Et ça a transformé complètement ma vie. Parce que la méditation, ce que ça fait, ça permet au cerveau de se reposer. Donc de temps en temps, je laisse mon cerveau se reposer pour que mon corps puisse se régénérer. C'est très important.
C'est une renaissance aussi ?
Toujours. À chaque fois, 2 fois par jour, je médite, tous les jours. Même dans les avions, dans les aéroports surtout, quand on est entouré de bruit, dès que je rentre dans l'avion avant qu'on le décolle, je commence ma méditation directe.
Merci Angélique Kidjo. Demain, nous explorerons encore votre vie, votre œuvre, vos voyages et peut-être un petit bout de votre cerveau.
On va essayer.
À demain.
À demain.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre d'Élodie Maillot avec Angélique Kidjo. À voix nue, réalisation Anaëlle Brouard, prise de son Élise Leu, coordination Sandrine Trainer, attachée de production Daphné Abgral. À voix nue se réécoute et ce podcast sur franceculture.fr.